Une petite merveille.
C'est incroyable. Ça part dans un allegro vivace, et puis ça tombe dans une tendresse, una ternura. Ça encore, ce sont les deux aspects de Cuba. La puissance de l'afro-cubanisme, de la rumba et de la columbia, là, c'était une espèce de columbia afro. Et puis, la tendresse d'un début de boléro.
Voilà. Non dit. Donc, Mario est donc le directeur musical chez Machito dans ses années 40, et il le restera longtemps d'ailleurs. Hein. Mais il va inclure et faire entrer dans cet orchestre, en fait, dont il a la charge, spirituelle, en quelque sorte, c'est le guide, de faire entrer quelque chose qui sera particulier, ça veut dire le 6-8, une notion tout à fait africaine du rythme, et pour cela, il va falloir aussi trouver des instrumentistes. Et rentrera et arrivera ce personnage extraordinaire dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelle Chano Pozo. Alors, qui est-il et qui est-il à Cuba,
oui,
ce personnage?
Oui, mais Chano c'est un peu plus tard. Oui. C'est un peu plus tard parce qu'au début, bien sûr, il faut monter la section rythmique. Mm-hmm. Bon, il faut asseoir les cuivres parce que Machito, lui, c'est un gars qui sort du son et de la guajira. Il ne faut pas oublier, alors, il faut aussi parler de la trompette. Dans le son cubain, quand nous écoutons le son cubain des années 1919 jusqu'à 1930, mais c'est tellement désuet, on se dit, mais comment ils ont pu jouer une musique comme ça on rêve, c'est tout plat, je parle de la trompette en fait, c'est même pas une trompette, c'est un cornet.
Un cornet, et puis en ensemble. Hein.
Oui, alors c'est désuet, ils ne font pas de phrasé, ils font l'introduction du thème, il n'y a pas d'improvisation. Les seules personnes qui peuvent faire une improvisation, ce sont les chanteurs. Abelardo Barroso, même pas le tresse accompagne. C'est ça la musique noire cubaine. Ce sont les noirs qui ont inventé ça. Et c'est cette musique qui va éclater la tête de plein de gens plus tard. Ça fait 80 ans que le son a pris possession de l'esprit des gens. Le son a zombifié toute l'Amérique latine. Donc, ce fameux son qui est tout timide à ses débuts, avec marimbula, avec clavé, bongo, hein. Il y a des femmes d'ailleurs qui ont pris part à l'aventure. Maria Teresa Vera a eu un sextet de son, sextet occidente à l'époque. Et donc, Machito, lui aussi, il s'est essayé au son. Il a joué avec quelques personnages, mais il a aussi surtout rencontré ce qu'on appelle un blanquito, un petit blanc, Miguelito Valdés, qui lui, c'est un espèce d'élève zombie d'Arsenio. Il a beaucoup écouté ce qu'Arsenio faisait. Arsenio descendant du Congo. Quand Arsenio a imposé la tumba, parce que la tumba n'avait pas le droit de citer.
Non, Dewa.
Non, on est en 1930.
On est de bonne compagnie.
Avec des orchestres blancs.
Oui, de bonne compagnie.
Bon.
Salon.
même les endroits pour touristes et tout ça, même parmi les blancs cubains, la tumba n'a pas le droit de citer. Là, oui, la calle. La tumba en el rumbón. En el callejón sin salida. Voilà. Donc, Machito s'essaie au son et à la guajira. Et en 1937, il s'en va. Bon, il monte, mais il sait bien que. Il monte à New York, mais il sait bien que la guajira, ça n'a pas d'avenir là-bas.
Non.
Parce que la guajira, c'est le tewa au cubain. C'est le chant paysan. Hein. Lié au son, ça te fait une guajira son qu'on peut danser un peu mieux.
Oui, ça peut être que nostalgique.
Voilà. Donc, oui, la guajira est très porteuse de nostalgie, en réalité. Machito, lui, il a son idée en tête. Il veut quelqu'un pour tenir ses musiciens. Et il faut un sergent. Ou il faut un capot. Le capot, ce sera Baoussa dans un premier temps. Il faut tenir la section rythmique. La section rythmique, elle est composée du jeune pour l'époque, José Mangual, père. Il y a un Cubain, l'un des meilleurs timbales de l'histoire du Cuba, c'est Ubaldo Nieto. Et un musicien qui joue de la tumba pour l'époque, en 1941, qui sera Ralph Miranda, mais dont le prénom est en réalité Luis Miranda. Donc ces trois joueurs vont accompagner, plus Bobby Rodriguez, le porto-ricain à la contrebasse. Tout ce beau monde conduit par René Hernandez. Bien.
Le pianiste.
Ça va durer pas mal de temps. Les percussionnistes, il faudra appeler l'autre. Alors viendra Chano, mais il fera des entrées et des sorties, lui.
Oui, c'est un personnage difficile à
mais
saisir.
Mais c'est surtout son frère, le cousin de Chano, qui est Chino Pozo, qui fera partie de la section rythmique, et bien sûr plein d'autres après. Donc, ces gens-là, il faut les fédérer. une section trompette où va trôner Baoussa, Paquito Davila, Woodland, un certain Woodland, Salo Abinovitz, Leslie Yonikens au baryton. Il faudra marier tous ces personnages pour faire une musique cohérente qu'on va appeler de l'Afro-Cuban jazz. Parce que le Latin jazz, ce n'est pas, il n'est pas encore né, hein. C'est beaucoup plus tard, 1953-55.
Ouais. Est-ce que là, il n'y a pas aussi nécessité de faire la musique du temps ? Et quand je dis le temps, ça veut dire de ceux qui se vivent dans une grande ville comme Harlem, comme New York. Une musique justement qui ait déjà les accents du jazz, des accents beaucoup plus cuivrés, beaucoup plus forts, une musique de densité qui déjà porte en elle une rythmique forte. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, et cette nécessité-là, est-ce qu'elle n'est pas sentie déjà par Mario Baroza ?
D'investir dans la durée ?
Oui.
Ah oui, mais il faut investir dans la durée parce qu'il faut, il ne faut pas jouer comme ça pour jouer, mais il faut trouver un public.
Alors, oui, mais peut-être que le public justement serait en accord avec, avec cette note, avec cette musique si forte. Et qui rappelle aussi, qui est beaucoup plus rythmique et qui amène une polyrythmie extraordinaire.
Mais le public était déjà écartelé parce que là, on va certainement parler du bebop.
Oui, c'est cela.
Je me mets à la place des gens de l'époque à New York. Mm-hmm. Il y a le bebop avec un contrebassiste. Il faut qu'il tienne sous trois jambes pour qu'il ne tombe pas parce qu'attention, la contrebasse dans le bebop, ça y va. Mm-hmm. Bon, une rythmique extraordinaire dans cette nouvelle manière de voir les choses. Plus la percussion cubaine qui arrive et on leur propose ça. Comment ils réagissent les gens ? Il faut les comprendre. Enfin, moi, je comprends les gens qui écoutaient ces gars-là, soit dans les concerts ou dans les after hours. Ouais, moi, after hours, ouais. Je comprends très bien. Et je comprends d'ailleurs les producteurs de disques qui disaient oui, mais.
C'est fou.
Est-ce que. Ou bien les mecs de la EOKO en radio qui disaient oui, mais passez ça, vous vous rendez compte.
Ouais, c'est dérangeant.
C'est dérangeant. Les tambours. Quand on sait que la société blanche américaine a éradiqué. L'instrument à peau, les instruments à percussion africains, d'origine africaine.
Oui, depuis fort. 300.
Ouais, ouais. Non, le tambour africain n'existe plus aux États-Unis. Mm-hmm. Et maintenant, on leur sert un tambour venant d'une petite île qui nous a déjà conquis, qui est leur néocolonie. Il y a un problème. Mm-hmm. Et c'est là peut-être où Cuba va gagner. Cuba est en train de gagner, ou bien Cuba a déjà gagné sur des carrés inespérés.
Cuba, c'est le naturel qui revient au galop.
Absolument. C'est extraordinaire, cette histoire.
Ouais, ouais. Donc, quelques mots sur Chano, alors, de présentation.
Ah ouais, Chano, alors, lui, c'est un personnage encore plus exubérant que Cap Calloway, parce qu'il est... C'est un noir, c'est un mec de mauvaise vie, nègre à couteau et à jambette, nègre à forme, très certainement.
Il est initié. Vagabond.
Oui, vagabond, il est initié, parce qu'il fait partie d'une société secrète qui, eux-mêmes, foutent la merde, sèment la merde dans les carnavals, dans les défilés de carnaval à Cuba. J'ai retrouvé une expression il n'y a pas longtemps qui disait, que les blancs cubains disaient, et surtout les maires des villes, comparsa si, conga no. C'est-à-dire, les défilés de carnaval, d'accord. Mais cette histoire de jeu de tambour après le carnaval avec les couteaux, non. Nous étions dans la Havane des années 20-30. Donc, lui... Posso, il est de cette époque. Il est en 1915, je crois, oui. Posso. Donc, il connaît ce truc-là. Il est initié donc, chez les Ñañigos. Et c'est un drôle de personnage qui a déjà fait un certain nombre de choses à Cuba. C'est un danseur de rumba. C'est un danseur de ballet. Il a fait partie d'une troupe de ballet cubain. C'est un chanteur. Il joue, c'est un percussionniste, il joue des bongos, il joue au tumba, il joue très certainement les tambours sacrés de son truc, entre guillemets, pardon. Parce que toutes ces religions ont une divinité, la divinité suprême de la religion de Chano Posso, c'est Abassi. Donc il vénère toutes ces divinités, c'est Orisha. Et Chano, lui, il va toucher des royalties, ou il n'en va pas toucher, quand il n'en touche pas, il sort son couteau. Voilà un peu le personnage qui quitte Cuba. Parce que ça ne lui plaît plus, sans doute. Il va à New York voir ce qu'il y a, parce qu'il sait déjà qu'il y a deux ou trois nègres dont on parle là-bas, et que surtout à New York, on joue sa musique. Alors qu'à Cuba, on ne la joue pas.
Voilà.
Parce qu'il est black. Donc, il va rencontrer, il part par l'aventure, et là, on revient Baroussa dans ce rôle d'entremetteur.
C'est ça.
Parce que c'est lui qui va le présenter Chano à Dizzy.
À Dizzy, oui. Mais avant, là, tu voulais te présenter justement quelque chose qui est d'inspiration.
Ah oui, Chano. Parce que là, je retourne à Chano. Il a composé Nagwe. Alors là, nous allons écouter Machito qui s'essaie. Parce que c'est difficile, Machito, il me fait un peu sourire parce que ce n'est pas un percussionniste, il n'est même pas chanteur. Il chante, bien sûr, oui, mais ce n'est pas un chanteur de la grande tradition des soneros. Mm-hmm. Il joue des maracas, il joue des claves. Et il va chanter Nagwe en s'essayant au chant, au langage éphique de la religion des Abakwa. Nous écoutons Nagwe.